Jacob apprendre avec une injonction enthousiaste les talents du cerveau, le défi des machines. On parle beaucoup, et on va en parler avec vous, des sciences cognitives. Auriez-vous une définition extrêmement limpide et simple des sciences cognitives? Est-ce que ce sont les sciences de la connaissance, de la conscience? C'est quoi?
C'est un ensemble de sciences qui essaient de comprendre comment fonctionne la cognition et donc indirectement notre cerveau, l'organe qui nous permet de connaître, de comprendre le monde extérieur. C'est un ensemble de sciences, depuis la psychologie jusqu'aux neurosciences.
J'ai envie de vous donner ce feutre pour que vous dessiniez sur votre beau crâne chauve les zones de la cognition.
Je peux vous les indiquer.
Mais je me retiens et je vous propose de regarder votre portrait, la règle de 3 réalisée par Gaël Legras. Regardez.
Des titres, une obsession, des questions, c'est la règle de 3 de Stanislas Dehaene. Des titres, pour les lire, il faut tout d'abord bien respirer. Attention, c'est parti. Psychologue cognitif et neuroscientifique, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de psychologie cognitive expérimentale, membre de l'Académie des sciences, chercheur au centre Neurospinet, président du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Bref, c'est une tête, spécialiste du cerveau. Dans les années 90, il devient expert en imagerie cérébrale.
On arrive par exemple à savoir si une personne est en train de regarder un visage ou est en train de regarder un mot.
Ces expérimentations permettent de révéler les bases des circuits cérébraux impliqués dans les opérations mathématiques, puis il étend ses recherches à la lecture et à l'écriture.
Les personnes qui apprennent avec une méthode alphabétique, phonique, entraînent le circuit de l'hémisphère gauche.
Son obsession, c'est l'apprentissage. Il y consacre 320 pages dans son dernier livre, où l'on apprend plein de choses passionnantes, notamment que les enfants ont besoin d'attention, de plaisir, de confiance, de sommeil, de persévérance pour bien apprendre, mais aussi d'un retour immédiat sur erreur et pas forcément de notes.
Alors la note, vous faites une somme de toutes les erreurs que l'enfant a pu faire. Et vous donnez ça à l'enfant, et souvent vous le donnez 15 jours plus tard. C'est trop tard.
Des réflexions qu'il partage sans doute avec son ami Jean-Michel Blanquer en tant que président du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Les questions, elles restent extrêmement nombreuses quand on se penche sur sa spécialité. Dans ses recherches, par exemple, Stanislas Dehaene s'attache à découvrir ce qu'il appelle le code de la conscience, ce qui revient à pénétrer notre intimité.
On peut commencer à décoder le contenu particulier de la conscience. Si on réveille une personne alors qu'elle était en sommeil paradoxal, et bien on peut prédire s'il y avait un visage ou pas dans le rêve.
Alors puisqu'aujourd'hui déjà les neuroscientifiques parviennent également à la stimuler, peut-être sauront-ils un jour modifier notre conscience.
Modifier ou même fabriquer des machines conscientes?
Je crois que notre cerveau est une sorte de machine consciente, mais quand on fait cette comparaison, on élève la machine. Je ne pense pas qu'on soit en train de rabaisser l'être humain. On voit que les machines sont capables de faire des calculs de plus en plus extraordinaires, et notre cerveau est encore très un cran au-dessus, ce que j'ai expliqué dans le livre,
mais oui,
des machines d'intelligence artificielle actuelles.
Mais oui, alors vous êtes d'un optimisme incroyable. Vous dites, n'ayez plus peur, puisque le cerveau humain, le cerveau du bébé notamment, est bien plus fort, bien plus intelligent qu'une machine ou que l'intelligence artificielle.
En fait, si on regarde l'apprentissage dans l'espèce humaine, c'est le bébé qui est le plus extraordinaire. Entre 0 et 3 ans, vraiment, c'est une explosion d'apprentissage à une vitesse remarquable. Et notamment, si on veut apprendre des langues, par exemple, c'est à cet âge-là, il faut les apprendre. Et le bébé peut en apprendre 2, 3 simultanément sans les confondre.
Il y a quelque chose de terrifiant. Ce qu'on n'a pas fait avec nos bébés entre 0 et 3 ans est irrattrapable.
Non.
Parce que les synapses se ferment et après c'est...
Non, alors on parle de période sensible. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, quand même, entre 0 et 3 ans, il y a une explosion de plasticité synaptique, et ensuite ça se tasse un peu.
Mais il y a... La plasticité synaptique, c'est la capacité qu'ont les neurones de communiquer.
Voilà, les synapses sont les points de contact entre les neurones, les synapses, et on pense, mais c'est pas la seule hypothèse quand même, mais on pense que c'est le support principal de l'apprentissage, la manière dont les neurones communiquent entre eux. Et alors, effectivement, après 3 ans, il y a une baisse, et une baisse qui est un peu plus prononcée aux alentours de la puberté. Mais dans beaucoup de circuits, c'est très loin de descendre à zéro. Vous aurez peut-être toujours un accent étranger, mais si vous apprenez une langue à l'âge adulte, vous apprendrez du vocabulaire, de la syntaxe, et vos circuits vont se modifier.
Mais les parents qui nous regardent et qui ont des enfants, 1, 2, 3, ou des petits-enfants, 1, 2, 3, 4, 10 ans, encore une fois, est-ce que dans l'optimisme qui est le vôtre sur le cerveau des bébés, il n'y a pas quelque chose de terrifiant, voire de culpabilisant? Nous avons tous, à vous entendre, à vous lire, rater quelque chose au début de la vie de nos progénitures.
C'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Non, je pense pas qu'on a raté. Je pense pas non plus qu'il y ait un axe unidirectionnel de performance des enfants. C'est plutôt, si on étudie le cerveau, c'est une collection de circuits qui peuvent tous s'épanouir. Et vous savez, une des valeurs de la science aussi, c'est la diversité. Ce que Darwin dit, il y a une valeur dans la diversité. Je crois beaucoup à l'idée que différents enfants vont développer différentes compétences, mais parce que l'environnement qui est autour d'eux, l'environnement de l'école en particulier, sera suffisamment enrichi pour cet organe absolument extraordinaire. C'est un super ordinateur, le cerveau du bébé.
Alors, vous étiez en train d'évoquer l'apprentissage des langues. Nadia, en ce moment, l'apprentissage des langues...
Voilà, en VO, c'est ça. C'est la nouvelle marotte du ministre de l'Éducation nationale que vous connaissez bien, Jean-Michel Blanquer. Donc, l'enseignement des langues étrangères à l'école, c'est ce que préconise un rapport qui lui sera remis mercredi, dont les grandes lignes ont été dévoilées. L'enseignement de l'anglais dès le CP, mais pour des matières autres que l'anglais, c'est-à-dire donner des cours de maths ou de sciences en anglais. Et il est question aussi de diffuser aux enfants des films ou des dessins animés en VO sous-titrés. Le but, c'est d'améliorer le niveau des petits Français en anglais. On n'est pas très bien classé, 32e sur 80 pays. Et vous, vous en venez d'en parler. D'ailleurs, vous allez plus loin. Vous dites on peut parler deux ou trois langues dès le berceau, parler anglais, chinois, français à un bébé. Mais il faut soi-même être bilingue ou avoir, je ne sais pas, une jeune fille au père. Alors, est-ce que ce n'est pas malgré tout quelque chose qui est réservé à l'élite et qui escamote la dimension sociale de l'éducation?
Non, pas du tout. Il y a beaucoup de familles migrantes, par exemple, et je sais que souvent, elles n'osent pas parler à leurs enfants alors qu'elles ont la chance d'avoir deux langues à la maison.
Parce que ce n'est pas valorisé de la même manière de parler arabe et français que de parler anglais.
Mais c'est une erreur. C'est une erreur. C'est-à-dire que le cerveau bénéficie énormément du bilinguisme, pas seulement, bien sûr, parce qu'il va maîtriser deux langues, mais aussi parce qu'il y a des compétences particulières qui vont se développer lorsqu'on apprend deux langues en même temps. Et en particulier, la compétence d'attention, de concentration, parce que l'enfant doit choisir quelle langue utiliser. Et il doit faire attention au fait qu'il peut y avoir polysémie ou qu'il peut y avoir plusieurs mots pour la même chose. Donc, le bilinguisme est bénéfique, pas seulement pour les aires du langage, mais pour d'autres aires du cerveau également.
Il y a eu beaucoup de polémiques, de contestations et éventuellement de suspicions à l'idée que les sciences cognitives, les neurosciences seraient appliquées à l'école, notamment parmi les reproches qui ont été faits, un reproche qui serait qu'on ne prend l'enfant, on ne l'envisage qu'à travers son cerveau et pas dans le bain relationnel dans lequel il baigne. Qu'est-ce que vous dites de ça? Qu'est-ce que vous répondez?
Non, mais évidemment, chaque cerveau doit internaliser le monde extérieur. C'est ce que j'ai expliqué dans le livre. Et tous les enfants ont un potentiel extraordinaire d'apprentissage. Nous avons tous quelque part le même cerveau, peut-être des vitesses légèrement différentes d'apprentissage, mais voilà. Donc, ce n'est pas du tout ma vision de penser qu'on va être élitiste. Au contraire, je pense que tous les cerveaux ont un potentiel initial.
Il y a une égalité des chances.
Il y a une vraie égalité des chances. Je vous donne un exemple. On a des recherches magnifiques sur le traitement des nombres dans le cerveau des petits-enfants. Et on sait que dès les premiers jours de vie, ils savent déjà la différence entre deux objets ou 1 plus 1 égale 2, deux objets ou trois objets, etc.
Quel que soit l'environnement dans lequel ils grandissent.
Exactement, c'est la même chose tous les environnements, et c'est la même chose chez les garçons et chez les filles, il faut le dire. Il n'y a pas de différence à cet âge entre les sexes.
Autre critique qui a été faite aux sciences cognitives, donc encore une fois appliquée à l'éducation nationale, celle de favoriser quelque chose qui serait de l'ordre de la performance, de l'efficacité. En d'autres termes, les sciences cognitives seraient libérales ou seraient proches du libéralisme, toujours dans cette favorisation, et au détriment du traitement des inégalités de manière sociale.
Pour moi, c'est exactement le contraire. D'abord, il ne faut jamais confondre la science et l'idéologie. Ensuite, vraiment, le cerveau est vu dans toute sa dimension multidimensionnelle. Et c'est seulement en regardant les choses en face, c'est-à-dire en comprenant mieux pourquoi il y a des inégalités, qu'on peut les rattraper. Donc tout notre objectif, notamment dans ce livre, mais aussi au Conseil scientifique de l'éducation nationale, c'est de dire fournissons des outils aux enseignants pour mieux regarder les choses en face, savoir quelle pédagogie fonctionne, savoir aussi pour un enfant donné, pour chaque enfant, vous savez, en début de CP, ils vont avoir des évaluations. L'objectif, c'est que chaque enfant soit identifié avec ses besoins. Et on dit évaluation, c'est pas négatif, c'est une évaluation pour renforcer les moyens qui seront donnés aux enfants qui en ont le plus besoin. Donc c'est au contraire dans un but d'épanouissement de chaque enfant.
Question, est-ce que les sciences cognitives sont l'arme absolue? Sous question, est-ce qu'un jour, si je vous confie un bébé, vous me rendrez un être humain capable de battre la machine aux échecs, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps?
Et heureux.
Mais vous savez, c'est mon étude. Il faut quand même relativiser. Moi, j'essaye de donner un certain nombre d'idées, de grands principes des sciences de l'apprentissage. Notre science du cerveau est quand même balbutiante, il faut l'admettre. Si on avait tout compris, on saurait d'ailleurs faire des machines qui imitent le cerveau.
Donc, battre la machine aux échecs. Si le cerveau du bébé est plus fort que la machine, est-ce qu'un jour, Kasparov sera vengé?
Donc, dans le domaine des jeux comme les échecs ou le go, c'est trop tard. Nous avons maintenant des machines qui, sur syntaxe extrêmement précis, font bien mieux que le cerveau humain. Ce qui est spécial dans le cerveau humain, c'est son caractère extrêmement ouvert, capable d'apprendre pratiquement tout dans l'univers. Les sciences sont en train de conquérir une connaissance absolument extraordinaire de tous les aspects de l'univers, et aussi capable de le faire avec très peu de données. Il y a une économie de la donnée dans le cerveau. Le petit enfant, par exemple, est capable d'apprendre le langage à partir de quelques observations, de quelques mots, d'une manière qui n'est pas du tout reproduite pour l'instant dans les machines artificielles.
Le petit enfant, oui, mais la grande personne.
Et la grande personne, elle apprend encore du vocabulaire, elle aura toujours un accent, elle ne discriminera plus les phonèmes des langues étrangères. Vous savez, ça se ferme à peu près vers la première année de vie. Donc voilà, ne faut pas avoir trop de regrets. C'est normal, c'est en se spécialisant de notre cerveau.
C'est une école de la sagesse aussi, c'est ça? Merci. Mais, et du renoncement.
Mais se connaître soi-même, pour moi, c'est l'objet essentiel des sciences cognitives.
Mais donc, vous êtes un philosophe, qui plus est. Merci Stanislas Dehaene.